Monde. Merci d'être là ce soir. C'est notre dernière rencontre en 2023. Alors, la réunion débute, il est 19h49. La séance publique, vous avez reçu l'ordre du jour. Je recevrai une proposition. Avez-vous des points? Oui, Bruno.
J'aimerais ça rajouter à faire nouvelle.
Hydro-Québec à faire nouvelle, parfait. Avez-vous d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition pour Lynn.
Enfant municipal, médaille régionale.
Merci beaucoup. Médaille régionale. La affaire municipale. Proposée par Alexandre, appuyée par Marco. Merci beaucoup. Le mot de la préfète, je trouve ça triste ce soir de faire le mot pour remercier quelqu'un qui a énormément donné à la MRC, puis qui n'est pas là. Mais il va être enregistré, fait qu'on pourra lui faire entendre. Daniel Barrette nous a informé lors de la séance du comité administratif qu'il quittait les comités sur lesquels il siège, à l'exception du comité La Table de Gire. Évidemment, ça fait l'agence, oui.
De forêt privée.
Ah, l'agence de forêt privée, je me suis trompée. OK, excusez. L'agence de forêt privée, c'est vrai. Et ça fait plus de 20 ans qu'il s'implique comme élu municipal, comme membre de la MRC, comme membre du comité administratif et de différents comités. Je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'il ait envie de passer la main à la relève. Et il y a de la relève autour de la table actuellement. Alors, je tiens à ce qu'on souligne le travail de Daniel Barrette comme maire de sa municipalité, comme maire qui a réussi avec succès une fusion municipale, comme personne qui a énormément contribué aussi à la MRC dans les différents comités et au comité administratif. Je recevais sa démission avec tristesse, mais avec beaucoup de compréhension parce que ça demande énormément de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Puis, à un moment donné, ben, on peut comprendre que les gens veuillent s'en donner à eux-mêmes du temps. Je me suis assurée que ce n'était pas une question que Daniel reste en bonne santé parce qu'on est toujours inquiet quand quelqu'un quitte toutes ses fonctions. Ça va? Ta santé est bonne? C'est le cas, sa santé est bonne. Puis, il m'a rassurée là-dessus. Mais je pense qu'on doit le remercier chaleureusement de tout le travail qu'il a fait pour la MRC et pour les municipalités au Témiscamingue. Même s'il n'est pas là, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'on va s'assurer qu'il écoutera l'enregistrement de ce soir. Merci beaucoup, Daniel. Et je le disais, c'est avec tristesse, mais avec beaucoup de compréhension que je comprends pourquoi il le fait. Cela dit, ça nous amène, on aura des nominations à faire aux différents comités et ça nous amène à se rappeler que plusieurs comités de la MRC, ce sont des instances qui creusent des sujets pour lesquels on a besoin d'avoir un avis, justement, pour que tout le monde soit toujours pris dans tous les mêmes dossiers. Ce sont des comités qui sont conseils auprès de notre conseil de la MRC et qui nous pistent sur des éléments, des enjeux et sur des décisions qu'on peut ou qu'on doit prendre. Alors, ces comités-là sont importants et les personnes qu'on recherche au niveau des comités, on recherche des gens qui vont être impliqués, mais qui auront aussi des compétences pour accompagner les différents sujets qui sont traités dans les comités. Alors, on cherche rarement des gens de l'extérieur. Ça reste des comités de la MRC et qui rendent des comptes au conseil de la MRC. Mais lorsque ça arrive, on recherche des personnes qui ont les compétences appropriées pour nos comités. Dans ce contexte-là, je sais que je vous remercie souvent comme élu de participer au conseil de la MRC, mais je vous remercie aussi comme personne qui participait à plusieurs comités ou à plusieurs représentations pour et au nom de la MRC. Merci tout le monde de votre implication. On va passer à l'adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre. Vous avez reçu copie de ce procès-verbal-là. Est-ce qu'il est fidèle à nos discussions? C'est conforme. Alors, si le cas échéant, je recevrai une proposition. Bruno, appuyé de Vincent. Merci. Est-ce que notre assistante en délire a des questions?
J'ai toujours pas plus le droit de poser des questions.
Mais t'es quand même en délire.
Merci. Alors, suivi des grandes priorités de la MRC de Témiscamingue, simplement pour vous mentionner que sur le logement, on parle de la priorité du logement. Il y a la première rencontre qui a eu lieu, on a convenu que le transport était un sujet important et on s'est assuré que le transport devienne aussi un sujet abordé par le comité. C'est un comité ad hoc qu'on a nommé. Cela dit, sur le transport, il y a trois gros événements et je vous invite à être très attentifs. Là, ça touche tout le monde, mais sur le transport, il y a le CREAT qui organise un forum ou un colloque le 3 février prochain sur les transports actifs, notamment sur l'électrification des transports en milieu nordique. Et c'est un colloque qui s'adresse de façon particulière au monde municipal. D'ailleurs, la conférence des préfets va participer à alimenter là, la réflexion puis orienter les discussions au niveau du forum. Je vais vous inviter à y assister de façon particulière. Le 3 février prochain, c'est un vendredi. Il y a également un événement qui va se produire, qui va se tenir à Montréal. On l'a mis dans votre infolettre, le salon, ce qu'on appelle le salon Impulsion. C'était dans l'infolettre parce que le transport adapté nous l'a partagé. Mais en regardant le contenu et certaines des thématiques abordées, je pense que ce sera aussi d'intérêt que certaines personnes du milieu municipal y assistent. Je pense à moi, entre autres, et également peut-être à Martin Lefebvre qui est au comité, là. Fait que faut envisager que ce soit une participation qui pourra être soutenue, là, par la MRC. Il y a Vecteur 5 qui est en. Pardon?
C'est un salon de quoi?
C'est sûr, ils appellent ça un salon, mais c'est sur tous les mécanismes de transport collectif, réfléchir tous les réseaux, tout le secteur des transports, transport collectif, transport de marchandises, tous les réseaux de secteur des transports. C'était dans la dernière infolettre. Celle-là, non, l'avant-dernière infolettre, hein, Lynn? L'avant-dernière. Puis, c'est vraiment, ça se passe à Montréal sur 3 jours. Et c'est vraiment un événement où on veut intégrer l'organisation urbaine, par exemple. On réfléchit à l'organisation urbaine en matière de transport en même temps qu'on réfléchit au transport collectif. Mais nous, il faut être présent aussi pour rappeler que tu ne peux pas réfléchir du transport en milieu rural de la même façon que tu as l'approche en milieu urbain. Et cette dimension-là, elle échappe souvent à toutes les personnes. Dans ce contexte-là, on parle, puis le CREAD va reprendre aussi un peu le transport actif. Transport actif, c'est ce que d'autres ont appelé, comme Équitaire a appelé ça, les cocktails transport, utiliser l'auto sur un segment, mais le transport collectif, la marche, le vélo, d'autres types de moyens de transport là, pour éviter d'encombrer les villes, les centres-villes avec les véhicules. Encore là, il faut réfléchir à hauteur. Une proposition est très portable sur la ville, mais moins, beaucoup moins en milieu rural. Fait que je pense que notre présence, prendre acte de ce qui se dit, mais aussi amener les éléments de complexité quand on est dans une MRC essentiellement rurale. Et plus de la moitié des MRC au Québec sont dans la situation dans laquelle nous sommes. Il faut quand même partager cette réalité-là. Vecteur 5, a été mandaté par le Fonds québécois d'initiative sociale, par le comité fiduciaire régional, pour produire une étude sur les difficultés, les besoins en transport partout dans la région. Et ils doivent présenter un rapport au courant du printemps. Alors, on attend beaucoup de ce rapport-là parce que Le Fonds québécois d'initiative sociale vise la lutte à la pauvreté et c'est souvent, c'est ce qu'on a constaté d'ailleurs dans le milieu du logement, c'est souvent les logements moins dispendieux ou pas nécessairement abordables, mais plus accessibles, vont être très loin des services auxquels les personnes qui ont moins de moyens ont besoin ou veulent avoir accès. Le transport, le logement et le transport sont des impératifs très liés. Le FQIS avait demandé une analyse sur le logement social et là, ça va être complété par l'étude de Vecteur 5. Fait que les travaux que nous menons sont aussi nourris par les travaux qui accompagnent là, les préoccupations qu'on a sur le territoire. Donc, tout ça entre dans nos réflexions en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Alors, sur les suivis d'enjeux ponctuels, le complexe des eaux profondes, normalement, Daniel Barrette aurait fait un état de situation, ce qu'il faisait à toutes les rencontres. Cela dit, ce qu'on sait, c'est que les PFT sont toujours, on est toujours en attente des PFT. C'est la dernière information à jour. Le point 7.1.1, nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration du complexe des eaux profondes pour l'année 2023. Lynn, on sait qu'on a un volontaire identifié. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour Aline Beauregard? Aline Beauregard, que Marc Girard, excuse-moi Marc, soit le représentant de la MRC. Est-ce que cette proposition-là est appuyée? AB. Alexandre Binette, Aline Beauregard. Merci beaucoup. Alors, Marc, merci beaucoup. Puis, ce qu'on attend du représentant, c'est de partager. Daniel avait fait beaucoup de chemin avec le comité puis les municipalités au départ pour rassembler les gens autour d'un projet de territoire et qui se déroulait à Ville-Marie et tout ça. C'est un peu le rôle que tu auras. Je pense qu'une rencontre avec Daniel sera intéressante. Mais c'est aussi de faire état de la situation régulièrement au niveau du conseil de la MRC. Merci. Merci de ta contribution, Marc. Alors, on passe donc. Y avait-tu autre chose, Lynn? Et Luc?
On fait son eau profonde, là. Là, comme celle-là, il n'y a pas de programme.
Actuellement, il n'est pas encore annoncé. Il y en a un qui va sortir au mois de mars.
Il va falloir que le programme soit bien généreux, puis il va falloir penser aussi à aller chercher des sommes d'argent, comme qu'on l'a fait à l'UQAP, dans le public, parce que tout le monde a fait le budget dernièrement. Et je peux vous dire que pour la municipalité de Béarn, ça aurait été très dur d'embarquer dans le projet, présentement. Donc, parce qu'il faut penser que dans la première année, il y a le financement du bâtiment et aussi la faire vivre dans la même année courante, là. Donc, ça aurait été avec les budgets présentement, comme si c'était...
Mon Lévis, actuellement.
Les moyens des municipalités ont beaucoup baissé, là. Il va falloir trouver une méthode de trouver des sommes d'argent ailleurs aussi. Comme qu'on l'avait fait, l'exemple du 4, là, aller chercher des fonds à l'extérieur. Mais il va peut-être voir que les programmes, c'est beaucoup plus généreux qu'ils étaient présentement dans les derniers programmes. Il faut être à l'affût de tout ça. Il n'y a pas juste la municipalité de Béarn qui a eu de la misère à gratter les fonds de tiroir. Ville-Marie, c'est la même affaire. Guigues, je suis certain que c'est la même affaire. Ça n'a pas été facile cette année.
Je pense que le point est approprié. Puis on l'attend. L'annonce du programme, là, on l'attend. C'était dans le. C'est 1,5 milliard que le premier ministre a annoncé dans le budget dans le discours inaugural. Puis il l'avait annoncé en campagne électorale, mais il l'a inscrit dans le discours. Fait que on l'attend, effectivement. Puis je pense qu'il faudra faire valoir les besoins des milieux ruraux.
Oui.
Les réalités, les besoins des milieux ruraux, je pense qu'il faudra défendre notre point, argumenter.
Là, au fil du mur à mur, ce que vous êtes là.
Exact, tout à fait. Merci, Luc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres commentaires? Ça va? Alors, point 8, Lynn, je te laisse la parole sur l'adoption du règlement déterminant la répartition des quotes-parts liées au budget pour l'exercice financier 2023.
À la séance du mois dernier, vous avez adopté le budget. Donc, suite à cette adoption-là, on met en forme de règlement. Peut-être vous mentionnez là, que quand on adopte justement le règlement sur la répartition des quotes-parts et des contributions des municipalités, dans le même règlement, il y a aussi l'adoption des taux de taxes pour les TNO. Donc, pour TNO, Daniel, le taux de taxe demeure similaire ou presque à celui de l'année passée, donc 0,9060. Au niveau de TNO Les Lacs, pour 2023, il va être à 0,588. L'année passée, il était à 0,5885. Donc, c'est l'information que je vais vous informer de façon plus particulière. Donc, ce soir, ce serait d'adopter le règlement 222-12-2022 qui détermine la répartition des quotes-parts pour l'exercice financier 2023 et les contributions des municipalités ainsi que des territoires non organisés. Et que le règlement soit inclus en annexe des présentes.
Avez-vous des questions, des commentaires? Luc, tu en fais la proposition? C'est appuyé? Jocelyn Cardinal, merci. Ça lève la main, tout le monde entend, c'est le fun. C'est beau, code part. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, point 8.2, avis de motion pour l'adoption du règlement 223-01-2023. Décrétant les règles en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Samy, je te laisse la parole là-dessus.
Conformément au code municipal, chaque municipalité et chaque MRC doit adopter un règlement qui liste les règles au niveau du contrôle et du suivi budgétaire. Donc, le projet de règlement que vous avez devant vous, il établit les règles en matière de contrôle des sujets budgétaires ainsi qu'une délégation pour aux fonctionnaires autorisés de la MRC afin d'autoriser des dépenses à concurrence des montants indiqués dans le dit règlement. Aussi, le règlement édicte les règles de suivi et de reddition de comptes que chaque fonctionnaire de la MRC doit respecter. Donc, si vous êtes d'accord ce soir, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement 223 sera adopté lors d'une prochaine séance.
Est-ce que quelqu'un veut donner avis de motion, Bruno? Bruno Boyer. Est-ce que vous avez des questions? C'est une discussion qu'on a eue au CA, justement, là, pour faciliter certaines décisions et éviter de toujours retarder certaines dépenses. Là, autoriser, par exemple, directrice générale et trésorière un montant de 5 000 $ sans avoir à faire appel au CA de façon systématique. C'est autorisé aussi d'autres directeurs sur certaines dépenses qui sont nécessaires au fonctionnement de la MRC. Voilà, merci. On passe au point 8.3. Je te retourne la parole, Lynn, pour l'adoption du calendrier des séances et réunions de travail pour 2023.
Oui, donc vous avez une proposition qui est inclue à l'ordre du jour. Donc, pour le CA, ce serait le premier mercredi du mois. Ça débuterait à 19h30. Il y a aussi au niveau des séances du conseil de la MRC, lors de la dernière réunion, bon, vous aviez statué qu'on pourrait y aller par alternance. Donc, une séance, on le tient à Ville-Marie, l'autre séance, on le tient ici, dans les salles. Puis, il y a aussi adopté à titre indicatif le calendrier pour les réunions de travail. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les dates, s'il y avait des contraintes.
Est-ce que ces dates-là, puis là, regardez rapidement, là.
Est-ce qu'il y a des...
On a tenu compte des grands événements que sont le congrès de la FQM, par exemple. On a tenu compte des assemblées des MRC. On a tenu compte de ces événements-là. Des congés aussi. On a déplacé par exemple, la réunion de travail pour le... Une réunion de travail
du budget.
Pour le budget, oui, c'est ça. On l'a mis en début novembre. On a déplacé une réunion de travail en octobre pour que ce soit plus tôt. pour pas que ça arrive dans le long congé.
C'est pas une siège le troisième mercredi du mois? Non, hein, je pense que c'est le deuxième, hein, je sens.
OK. Monsieur Young, c'est le deuxième mercredi aussi? Aussi, hein?
C'est bon.
C'est bon, ça? OK.
On a une décision à prendre pour le 18 ou le 25 janvier.
Bon, il y avait
cette date-là.
On savait
pas.
Laquelle vous privilégiez?
Le 25. C'est en fait.
Ou plus tard.
En fait, on avait. Le CA va se tenir le 11. Toute la semaine d'après, ce serait le conseil. On vous pose la question. Le mois de janvier est en particulier, là. Le 25.
J'ai déjà mon conseil le 25.
Ah, OK. Toi, c'est le dernier mercredi du mois?
Hein?
Le quatrième? OK. Ah, ben là.
Moi, j'aimerais mieux.
D'ailleurs, le 18.
Oui, c'est parce que je me garde toujours une semaine de mois que je formule. Aucun réunion. Puis là, le 25, c'est ma dernière semaine. Hein.
Ben moi, je n'ai pas d'importance sur le 18.
Oui, le 18, ça serait plus facile pour moi.
Le 18, tu n'es pas là.
Le 18, je ne suis pas là.
Okay. J'aurais pas être préfet suppléant. Mais est-ce que 18-25, le 18, ça irait bien? Alors, cette date étant déterminée, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Monsieur Drouin, Monsieur Young, merci beaucoup.
Tu vas te faire un glitch
de...
Oui.
C'est vraiment le fun, ça.
Ouais, ça
en
les a toutes.
Oui, c'est ça, puis tu rentres toutes, tu reçois 80 courriels, bon.
C'est pas grave, si tu t'effaces avec un.
Ouais, c'est ça, tu fais oui.
Alors, merci beaucoup. On passe donc à la nomination d'un représentant du secteur centre pour l'année 2023 au comité administratif, commission d'aménagement. Je vais laisser Lynn expliquer tout le processus de nomination et de vote.
Donc, pour la nomination au CA, ce soir, il faut voter un représentant du secteur centre. Dans le règlement du CA, il y a deux représentants du secteur centre. Il y a déjà M. Simon Gélina qui est présent. Donc, ça fait suite à la démission de M. Daniel Barrette. Donc, les membres éligibles au siège vacant, il y a M. Luc Lalonde de Béarn, M. Justin Cardinal de Duhamel-Ouest. Bon, Daniel Barrette, mais on comprend qu'on ne fera pas ce coup-là.
Vous le ferez.
Mario Drouin, Saint-Édouard-de-Fabre, et Monsieur Marco Dénommé, Saint-Eugène-de-Guigues, et Martin Lefebvre, Ville-Marie. Donc, la procédure.
Luc Lalonde n'est pas dans le secteur centre. Dénommé, OK. Ah oui, il dit oui.
Donc, la procédure, il y a une ouverture pour la mise en candidature. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ouverture.
Ouvrir les mises en candidature.
Oui. Après ça, pour chaque mise en candidature, ça prend un proposeur puis un appuyeur. Et après ça, je demande aux membres s'ils acceptent. Mettons, il y a plus qu'une personne.
OK.
Puis ça prend aussi une fermeture de mise en candidature. Madame Girard va acheter comme présidente. Et monsieur,
c'est l'élection.
Et monsieur Samy Bidi. Samy Bidi. Voyons.
Samy? Midiri.
Je cherchais son nom de famille. Je vais agir comme secrétaire. Non, de fils, c'est comme ça. Donc, voilà.
Est-ce alors,
que vous avez des questions sur la procédure?
Ça va. Alors, je laisse la parole sur. Oui, Alexandre. Je
propose l'ouverture des mises en candidature. Si je veux comprendre.
Moi, je suis secondé.
On m'a pas besoin.
Alors là, c'est plus moi qui ai le contrôle. Vas-y, Lynn.
Donc, est-ce qu'on a, quelqu'un qui propose la mise en candidature de l'une des personnes?
Moi, je proposerais Marco Dénommé.
Vincent. Je propose Marco Dénommé. Est-ce qu'on en a plusieurs?
Mario Drouin.
Est-ce qu'on a une seconde?
Je proposerais M. Martin Lefebvre.
Aline. M. Lefebvre. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie?
Bruno Boyer.
Est-ce qu'on a un autre candidat à proposer?
Prends ça tout de suite.
La langue, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un? Non? Est-ce que quelqu'un veut former la mise en candidat? Oui. C'est la langue.
Hey, je trouve ça le fun d'assister à la réunion ce soir.
Donc, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous acceptez d'être le,
oui.
le poste vous intéresse? Parfait. Monsieur Dénommé, est-ce que le poste vous intéresse?
Moi, le laisser à Martin, on n'ira pas en élection, pas de moins compliqué.
Ah. Ah.
Donc, vous laissez
votre monde voler voter.
Oui, moi, laisser ma plaine.
Donc, vous refusez?
Ah oui. Puis d'aller en élection, puis parle, puis c'est pas utilisé.
Elle
l'a dormi,
ouais.
11 tours, elle a vraiment capoté.
T'as fait peur à tout le monde. Ouais.
Donc, M. Lefebvre, félicitations.
Bravo, Martin.
Ça me prend quand même faire une résolution pour nommer M. Martin Lefebvre.
Alors, je recevrai une proposition pour nommer M. Martin Lefebvre. Lynn H., Nico Gervais, merci.
Ça, j'imagine, c'est pour l'année 2023, parce qu'après...
Oui, c'est vrai. Oui. Toutes les nominations ce soir, c'est pour une année, parce que les mandats sont 2 ans. C'est ça.
On passe donc au point 8.5. Félicitations, Martin. Et au 8.5, nomination d'un représentant au sein du comité économique de la MRC pour l'année 2023. Lynn, la parole est à toi.
Oui, donc, il y a monsieur, il y a un siège de vacant, monsieur Barrette ayant laissé son poste. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à venir siéger?
Au comité économique.
Là, c'est secteur 5.
Non, c'est tout secteur confondu. C'est l'intérêt, là. On est vraiment dans l'intérêt, les compétences des membres pour ces interventions-là.
Est-ce que c'est marqué secteur 5 dans la résolution?
Oui, je sais, c'est parce que je fais du copier-coller des fois. Hein.
Ça nous arrive tous.
Excusez-moi.
Mais c'est tout le monde qui est éligible.
Pas mettre de pression sur personne. Ça nous en prendrait peut-être un qui viendrait du CA aussi. C'est ce comité-là.
Du CA? Hein?
Ben, il y a Martin qui
est là. Martin, t'es-tu là? Ouais. OK.
Martin est là. Moi, je suis là. Okay. Je suis là, moi aussi, là.
On parle des maires, on ne parle pas de la préfète, là.
Présentement, qui est membre du comité économique?
Moi, Martin.
Il y a Luc Lalonde, il y a Martin, il y a moi, puis il y avait Daniel Barrette.
Il y a Pierre Gingras,
c'est vrai, il y a Pierre Gingras.
Il y a la directrice de la SDT, Nadia Bellemare.
Daniel Bourgault.
Le président de la SDT, Daniel Bourgault.
Emploi Québec ne vient plus, là.
Moi, à l'époque, il y avait Emploi Québec. Là, il y a la directrice de l'espace d'accélération croissante de Témiscamingue, Marie-Pierre Bernard, qui vient aussi. Puis il y a
Maïla.
Oui, il y a Soumaïla aussi.
J'ai une petite question. C'est quoi la fréquence? C'est
une fois par semaine.
Non, 4 à 5 par année.
C'est approprié. Le comité économique, c'est aléatoire, mais là, on a quand même quelques bons dossiers, notamment l'incinérateur Onimiki, qui est un sujet important là, pour le comité économique. Puis aussi le plan de travail de Soumaïla là, pour.
Est-ce que quelqu'un veut me proposer?
Oui.
Luc propose Bruno Boyer.
Et il vient du CA.
Il y en a deux. Appuyé de Martin Lefebvre, merci.
Souvent, ce que je propose là, vous le repassez aussi au CA, vous êtes dans l'administratif. Je pense que c'est important d'avoir cet appui-là.
Merci, Luc. C'est Luc Lalonde de proposer Martin Lefebvre appuyé. Vous nous voyez. Et nomination d'un représentant au sein du comité de sécurité incendie de la MRC. Là, il y a quelqu'un qui a manifesté son intérêt. Bruno Boyer, proposé par Marco Dénommé. Appuyé de Norm, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui disait?
Moi, j'avais du bleu d'appui.
Norm, OK. Alors, nos nominations pour ce soir sont complétées. Je vous remercie beaucoup.
Je vais prendre la place à Daniel, si je comprends.
Non, oh, c'est très
Ça va bien, Bruno, ça va bien. Alors, sécurité publique et incendie, Lynn, système de communication pour téléavertisseur.
Oui, donc le 7 décembre dernier, le COAT a pris contact avec la MRC pour l'informer que la ligne dédiée aux téléavertisseurs n'était plus fonctionnelle. Cette situation a eu pour effet de découvrir les communications d'urgence par téléavertisseur auprès des services incendie d'Anglier, la Barlachère, Saint-Eugène et la Brigade de l'Est. Donc, le COAT a réitéré le 14 décembre dernier que la dite ligne était toujours hors service. Puis, on rappelle que l'entreprise responsable de ce réseau, soit Radiocom JBM, a délibérément désactivé cette ligne sans aucun préavis. Donc, ce soir, ce serait d'informer les services incendie du Témiscamingue et le COAT que la MRC cesse de supporter financièrement le réseau de téléavertisseurs et de déplorer et dénoncer l'irresponsabilité du fournisseur pour avoir désactivé la ligne téléphonique des téléavertisseurs sans préavis, mettant en cause la sécurité de la population témiscamienne.
Est-ce qu'il y a un proposeur, Bruno Boyer, appuyé de Marco Dénommé?
C'est unanime.
Est-ce que quelqu'un est contre? Merci. Témiscamien vous remercie. Sécurité incendie, programme de l'installation et de la vérification des avertisseurs, Lynn.
Oui, donc, comme vous le savez, depuis plusieurs années, la MRC agit auprès des municipalités participantes pour faire la vérification des avertisseurs de fumée dans le schéma de couverture incendie. Il y avait une action comme quoi qu'on disait qu'il fallait maintenir et bonifier là, un programme régional. Donc, comme ce programme-là n'a jamais été mis en place, l'équipe d'incendie, là, donc Mme Linda Lévesque, ont travaillé sur le dossier. Ça a été présenté auprès des services incendie. Donc, ce soir, ce serait pour adopter le programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée.
Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur, secondaire, Mario Drouin propose. C'est appuyé de Justin Cardinal. Merci.